Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Ici avec Bernard Bretonnière. Bonjour.
Bonjour.
Bernard Bretonnière, vous êtes écrivain, vous êtes né à Nantes, vous vivez en région nantaise donc. Vous êtes membre de la poésie de Nantes et du comité artistique de la maison Julien Gracq, c'est bien ça?
Oui. Oui, la maison de la poésie de Nantes, oui.
Vous avez participé à différentes revues, comme Jungle, Encre de Loire, Babelio, Guerre Maritime. Vous avez été journaliste aussi, écrivain. Vous avez été traducteur aussi, occasionnellement, sur certains ouvrages. Vous écrivez, eh bien, principalement de la poésie, enfin, détromperai peut-être, mais de la poésie, des contes, des nouvelles. De la prose, des proses théâtrales, des essais. Entre autres, vous avez pu écrire en poésie Volonté en cavale ou Déprime, Pas un tombeau, daté du jour de ponte, Ce qu'il faut de patience, de la compagnie des anges, pour une part qui ont été édités au Dé Bleu. Et pour Volonté en cavale ou Déprime, c'est chez Color Gang. Alors, votre œuvre est multiple, vous avez de nombreux ouvrages durant toutes ces années d'écriture, c'est une vie donc avec des thèmes et des objets différents, particuliers en poésie. La question que je voudrais vous poser donc celle-ci, celle de savoir ce qui distingue le romancier de l'écrivain en poésie. Est-ce que ce qui fait la singularité de l'écriture en poésie?
Je ne sais pas très bien. Tout le monde a essayé de définir la poésie, personne n'y est parvenu. Guy Vic était assez malin, il disait, c'est pas le premier à le dire, je crois que Cocteau l'avait dit avant lui, la poésie c'est autre chose. Bon, ça avance pas beaucoup. qu'est-ce que la poésie? Je ne sais pas, c'est une forme courte, mais c'est pas toujours une forme courte. Ce sont des vers, mais ce ne sont pas toujours des vers. Ça rime, mais ça rime pas toujours, etc., etc. Il n'y a pas de définition.
Vous inventez vos propres formes, peut-être, d'écriture?
Alors, oui, on invente ses propres formes. Peut-être que la poésie, c'est dans la littérature l'espace où il y a le plus de liberté, de possibilités d'invention, d'audace, de folie, de délire.
Comment vous est venue l'écriture, comment cela s'est imposé à vous, à quelle nécessité ça correspondait?
Alors nécessité, c'est le mot qui convient parfaitement. L'écriture, c'est une compulsion, quelque chose qui est plus fort que soi, quelque chose contre quoi on ne peut pas aller. Alors moi personnellement, l'écriture, ça m'est tombé dessus précisément, je raconte ça aux élèves qui me questionnent, précisément en classe de 5e, où j'avais été un lecteur tardif. Ça m'embêtait d'apprendre à lire. Bon, et puis, les livres ne m'intéressaient pas. Il y a des écrivains qui vous diront que dès l'âge de 4 ans, il dévorait les livres et tout. Non, moi pas. Et j'ai commencé par lire tardivement et j'ai lu les clubs des 5. Voilà. et en 5e, j'ai commencé à faire des petits romans policiers copiés sur le club des 5. Mais le club des 5 m'a donné la passion de la lecture. Et un an après, en 4e, je lisais Sartre et Camus. Donc, j'ai fait le grand pas d'un seul coup. Et je ne me suis pas arrêté de lire, c'est devenu une passion dévorante. Et en 4e, j'écrivais plus de sous-club des 5, mais j'écrivais, je m'amusais à écrire des poèmes surréalistes, des choses comme ça, des poèmes surtout.
Est-ce que justement vous inscrivez, alors je pensais au mot filiation littéraire, mais on peut peut-être aussi parler de camaraderie littéraire ou d'amitié littéraire avec des auteurs actuels et puis aussi des auteurs disparus. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être de ces amitiés littéraires ou filiation, je ne saurais comment définir.
Alors filiation, je vois pas. Je pense que je suis nourri de très nombreuses influences. Et puis que je fais ma mayonnaise à moi avec tout ça. Donc ça peut aller de Rabelais, j'aime beaucoup Rabelais, à des poètes contemporains qui sont mes grands frères, comme Pierre Tillemans. Pierre Tillemans, c'est mon grand frère. Et puis je suis pas du tout dans les chapelles et tout. Ce que j'écris me fait placer par certains dans les formalistes, et par exemple tout mon travail de liste, et par d'autres dans les lyriques, alors que ce sont deux clans qui a priori sont opposés et se détestent. Nathalie Quintane avait appelé ces deux camps, d'une part les monstres, pour les formalistes, les conceptuels, et d'autre part les couillons, pour les lyriques. Je suis à la fois monstre et couillon.
Est-ce que, justement, j'avais une question à vous poser entre la relation entre votre travail de journaliste et votre travail d'écriture, d'écrivain. En quoi le fait d'avoir été journaliste crée ou pas une manière particulière d'appréhender votre travail? Est-ce que vous avez un recul sur cette pratique-là de journaliste qui peut-être aussi forme des manières d'écrire ensuite en tant que poète? Est-ce qu'il y a des ponts entre
les
deux?
Moi, je crois que ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est assez étonnant de remarquer que des journalistes qui ont une plume magnifique, quand ils écrivent dans les journaux, le jour où ils s'essayent au roman, c'est très souvent une catastrophe. Ils n'ont plus de bonnes plumes. Je ne comprends pas très bien pourquoi, d'ailleurs, je ne saurais pas l'expliquer. Bon, cela dit, il y a des journalistes qui sont aussi d'excellents romanciers. Il ne faut pas généraliser. Moi, je vois la très grande, très très grande différence entre l'écriture journalistique et l'écriture littéraire, c'est que la première s'adresse à quelqu'un, à un lecteur. Moi, quand j'étais journaliste, quand j'écrivais un article, je me disais toujours, ne perds jamais ton lecteur de vue, c'est pour lui que tu écris. Tandis que l'écriture littéraire, elle, ne doit pas se soucier du lecteur. La catastrophe, c'est d'écrire pour faire plaisir, c'est d'écrire pour séduire, c'est d'écrire évidemment pour vendre. L'écrivain de littérature écrit pour lui-même, pour lui seul. Dès qu'il va penser à son lecteur, il va prendre un mauvais chemin. Donc ce sont deux écritures qui n'ont rien à voir et qui sont même opposées.
Vous êtes bien dans l'émission Logosphère. J'accueille aujourd'hui Bernard Bretonnière, donc écrivain, poète. Et Bernard Bretonnière va nous faire le plaisir de nous lire un extrait de son livre « Pas un tombeau ».
Alors, je vais lire le début, c'est plus simple. « Mon père vivant. Mon père, il y a du monde, sort ses vins. Canon Fronsac, Coteau du Lyonnais, Reuilly, Costière de Nîmes, du Rouquin, tu m'en diras des nouvelles. Et goûte-moi ce blanc, jamais tu trouveras. Ça vient de Nice. Mon père apprenant à chanter à ses enfants, puis à ses petits-enfants. Verse à boire à Baptiste, nom de Dieu. Verse à boire à Baptiste. Puis qui boit, puis qui pisse, nom de Dieu. Puis qui boit, puis qui pisse. Mon père devant le saladier. C'est touillé? Bon, je touille. Si madame veut bien se servir. Mon père à ma mère, bobonne, c'est pour rire, même si... Mon père ignorant tout de l'aspirateur, du mixeur, des machines à laver et à coudre. Mon père, tut-tut-tut, trois coups de klaxon le soir, on descend au garage en courant, en pyjama, pousser la lourde, lourde, lourde porte, on n'est pas trop de trois. Et hop, allez vous coucher maintenant. On dîne pas avec lui, c'est trop tard. On a déjà dîné. Mon père, il dit pas klaxonner, il dit corner, je corne, tu cornes, il corne, c'est trois coups de corne, tut-tut-tut. Mon père, chirurgien réputé, incontesté, virtuose, moi très fier. Mon père bourgeois, notable, nanti, moi pas fier, comme de la honte. Mon père, c'est mon père. Mon père, chanson de salle de garde, histoire d'internat de médecine entendue 100 fois. Un jour, on avait mis du mercurochrome dans le bénitier. Et il y avait une fille, c'était Arine. On appelait son copain l'amant d'Arine. Et puis on avait plâtré la queue du chat d'une bonne sœur au-dessus de son dos, en anse de panier, et on se bagnaudait avec.
Merci Bernard Bretonnière pour cet extrait du livre « Pas un tombeau », un livre donc sur votre père. Est-ce bien ça d'ailleurs ?
C'est exactement ça. Alors, un tombeau en littérature, c'est un livre en hommage à un défunt. Bon, par exemple, Mallarmé, quand il a perdu son fils Anatole, a écrit « Tombeau d'Anatole ». Bon, il y a aujourd'hui des tombeaux de Jim Morrison, tombeaux de Janis Joplin, tombeaux d'Edgar Poe, bon. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ce livre « Pas un tombeau », parce que j'ai voulu écrire sur mon père vivant. Et mon père est toujours vivant, il a 94 ans aujourd'hui.
Un père truculent.
Truculent.
Ouais, très vivant, très joyeux. Et un très beau texte d'ailleurs. Alors les autres écrivains vous distinguent, vous remarquent comme un poète de l'énumération. Enfin en tout cas c'est une des définitions qui a pu être donnée je crois par François Bon, me semble-t-il. On peut effectivement remarquer ce procédé de l'énumération dans votre œuvre, mais votre œuvre ne se résume absolument pas à ça, me semble-t-il. Alors là, il y avait cette répétition, mon père, mais on peut retrouver cette forme dans Volonté en cavale, dans un texte aussi qui s'intitule Cigarette. Donc comme je le disais, même si ça ne résume pas, n'épuise pas tout votre travail, elles sont en effet remarquables sur des sujets précis. Votre père, donc, la dépression dans Volonté en cavale. Qu'est-ce qui vous permet ce procédé littéraire là ?
Mais c'est pas une permission. C'est là encore, c'est une compulsion. Je ne sais pas pourquoi. J'ai 4 ou 5 livres qui utilisent ce procédé de répétition en début de phrase, qui est donc l'anaphore. Et j'ai précédé François Hollande dans l'anaphore, puisque j'ai écrit ça avant qu'il fasse sa série « Moi président, moi président, moi président ». Bon. Et c'est depuis ce jour-là qu'on connaît le mot anaphore qu'on ne connaissait pas avant. Ouais. Comme quoi les politiques ont plus d'audience que les poètes. mais pourquoi, je ne sais pas. L'écriture, elle s'impose à vous, et les procédés, les formes s'imposent aussi à vous. En fait, quand j'ai commencé à écrire des listes plus systématiquement, mais toujours par nécessité, pas par calcul, je me suis rendu compte que dans mes textes précédents, dans tous mes textes anciens, beaucoup plus vieux, il y avait déjà des amorces de listes ou d'énumérations. Pour moi, une liste, c'est un premier jet sauvage. Et une énumération, c'est une liste classée, construite. Bon. Donc oui, je fais des listes, je fais des énumérations, je ne sais pas pourquoi, c'est une forme dont j'ai besoin, c'est un cadre dont j'ai besoin.
C'est un cadre qui libère aussi
Ça enferme plus que ça libère, parce que quand on commence à faire une énumération, on rêve qu'elle soit exhaustive, et on n'y arrive jamais. Donc, j'écris sans cesse des textes que je ne peux pas finir. Là, J'ai écrit, j'en suis à peu près à 900 listes, des listes que je publie de temps en temps sur Facebook. Mais tous les jours, j'ai des idées ou des informations pour rajouter un mot, un nom à une liste. Et ça fait 2 ou 3 ans qu'un éditeur me demande de publier mes listes. Et je lui dis, demain, faut que je finisse, faut que je complète, faut que je continue, faut que je corrige. Et demain, c'est toujours demain.
Est-ce que là, comme ça, vous pourriez nous lire un extrait de Volonté en cavale qui nous permettrait aussi de retrouver ce procédé littéraire ou du moins cette comment vous disiez, compulsion ?
Ah, ouais, cette compulsion d'anaphore. Ouais, ouais. Alors, Volonté en cavale, c'est, je crois que c'est le livre qui m'a demandé le plus de travail, parce que j'ai fait un travail d'enquête, de recherche, là, de journaliste, pour ce qui est du pur travail, sur la dépression. Donc, j'ai enquêté auprès de pharmacologues, de psychiatres, de malades guéris. J'ai lu, je sais pas, une quarantaine de livres sur le sujet, à la fois de médecins, de thérapeutes, de psychologues, etc. Et puis, voilà, bah, pour écrire sur le sujet, après, en essayant de digérer toutes ces recherches, ben bah oui, c'est parti dans l'anaphore, sans l'avoir choisi. Donc, c'est un personnage qui est multiple, qui s'appelle en un seul mot le dépressif. Et donc ça commence, le dépressif commence chaque phrase. Le dépressif, ça va ? Ça va. Encore menti, enjoué, joliment joué. Le dépressif, elle s'appelle dépression, on la dit nerveuse, et petit nom, bile noire, maladie de l'âme, torpeur de l'esprit, assédie, affaiblissement, alanguissement, blues, bourdon, breakdown, tristitia, taedium vitae, mélancolie, spleen, délectation, morose, tristesse débilitante, trouble de l'humeur. Le dépressif, t'es quoi toi ? Primaire, essentiel, réactionnel, constitutionnel, situationnel, endogène, névrotique, psychotique ? Le dépressif, tombé dans quelle marmite quand il était petit ? Le dépressif, de Pandore aurait ouvert la boîte. Le dépressif, tempérament en cause, nature, métabolisme, complexion, congénitale, générique, atavique, hérédité, destin, karma, sortilège. Le dépressif, génome mal foutu, petit poids dans la cervelle, un pet au casque. Le dépressif, pas fait pour le bonheur. Le dépressif, maman, pourquoi, papa, pourquoi moi ? Hélas, hélas sur moi.
Merci Bernard pour donc ce texte, Volonté en cavale ou déprime. Alors il y avait une petite anecdote, je crois, sur le déprime.
Alors oui, déprime, je voulais que ce soit le seul titre, mais en fait c'est impossible pour les recherches bibliographiques, etc. Alors ça s'écrit D suivi d'une apostrophe, c'est-à-dire comme en écriture mathématique. Voilà. Mais quand les gens lisent ça sur le papier, ils disent des apostrophes, ils disent pas des primes. Et en fait, c'est une idée que m'a donnée ma fille, et je suis très fier, qui avait, je sais plus, 11 ans, je crois, à l'époque. Et je lui avais dit que j'écrivais un texte sur la dépression, la déprime et tout. Elle me dit, mais papa, tu devrais l'appeler des primes. Et elle écrit des apostrophes. Et j'ai trouvé ça formidable, et c'est pour remercier ma fille, lui rendre hommage, parce que je suis très fier d'elle, que je l'ai mis en sous-titre. Le titre « Volonté en cavale », lui, c'est une expression employée à Jocelyne Michel, qui a écrit au début des années 70 un livre qui s'appelle « La déprime ». Et c'est elle qui a inventé ce terme, la déprime. C'est un mot qui n'existait pas avant. C'est encore D'accord. un mot, comme il y en a beaucoup, dû à un écrivain. Et elle définit la déprime dans son livre comme une volonté en cavale. Et j'ai trouvé l'expression jolie,
c'est une belle
donc
expression.
Je l'ai prise en titre.
Miraculé, mais toujours au bord du vide. Il y a aussi dans d'autres livres, tels que dans La Compagnie des Anges, Ce qu'il faut de patience, donc qui sont des livres plus anciens. La fragilité que vous exposez à nu et à vif, est-ce que l'écriture, justement, est la plus juste lorsqu'elle touche cette fragilité-là de notre humaine condition? C'est une question vaste, je suis d'accord.
Ouais, mais l'écriture, le miracle de l'écriture, c'est qu'il permet de sortir un petit peu de l'humaine condition, de sortir un petit peu la tête de l'eau. Je veux dire, la personne qui est totalement à plaindre, la personne qui souffre le plus, c'est la personne qui ne peut pas s'exprimer. C'est la personne qui reste prostrée dans le silence et dans la non-communication avec les autres. À partir du moment où, on va dire, grosso modo, on va dire un déprimé, un mélancolique, s'exprime, ça peut être par l'écriture, ça peut être par la musique, ça peut être par la peinture, ça peut être par la danse, tous les artistes en sont des exemples, eh bien, il fait quelque chose de sa mélancolie, donc il en sort. Jean Starobinski a écrit des choses magnifiques là-dessus que je ne citerai pas parce que c'est des phrases trop complexes que je ne connais pas par cœur, mais c'est absolument lumineux. Voilà, c'est ça, ce dépassement de la mélancolie par l'utilisation même de la mélancolie, c'est une alchimie, on transforme la mélancolie en quelque chose. Et c'est pour ça que moi, je, dans les ateliers de lecture, je présente toujours un poème comme le plus beau poème du monde, le plus extraordinaire poème du monde, le poème des poèmes, et qui dit exactement ça, c'est-à-dire qu'on sort de sa mélancolie, on peut sortir de sa mélancolie en écrivant. Il est de Richard Brautigan, et là, je crois que je peux le dire par cœur, c'est « Ça va tellement mal aujourd'hui que je vais écrire un poème. N'importe quel poème. Ce poème. » Point final. Bon, voilà, je trouve ça littéralement génial. C'est-à-dire, voilà, je suis triste, mais j'en fais quelque chose. J'écris trois lignes. Trois lignes sans inspiration, sans rien, mais j'ai écrit trois lignes. Donc, j'ai agi. Et la mélancolie, c'est de ne plus pouvoir agir. La dépression, c'est de ne plus pouvoir agir. Et là, eh ben, Brautigan a pris un crayon, il a écrit ça. Donc, le premier pas est fait pour en sortir.
Alors justement, de ce travail d'écriture, le fait de permettre l'expression, ou du moins que l'expression advienne, et dans un certain nombre de textes, ce sont aussi des formes de collection de scènes, ou de paroles. Je pense à Cœur d'estuaire notamment, où il y a des chapitres qui s'intitulent Paroles volées ou Paroles données, et puis aussi dans Inoubliable et sans nom, qui est une collection de scènes où sont les autres, en fait des scènes que vous avez dans la rue, dans des endroits, dans des lieux, et que finalement vous faites exister là où ils auraient été oubliés, exister à travers l'écriture. Donc l'écriture aussi, c'est ça, ça permet de sauver de l'oubli.
C'est exactement ça. L'écriture, c'est sauver de l'oubli. On écrit pour ne pas oublier. On écrit pour fixer. On écrit pour fixer sa mémoire, la mémoire des autres, la mémoire des événements, etc. Pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment ça. Écrire, c'est fixer les choses. Et moi, comme dit Daniel Bigat, on a ce trait en commun, j'ai l'imagination paresseuse. C'est-à-dire que j'ai pas d'imagination. Je suis incapable d'écrire de la fiction. Je suis incapable d'écrire un roman. Tout ce que j'écris, c'est la réalité. Alors, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai vues, que j'ai entendues. J'ai comme ça un très gros manuscrit de paroles de ceci, cela. Alors, il y a les paroles de brasserie, paroles de quai de gare, paroles de marché, paroles de grande surface, paroles d'hôtel, etc., etc.
La cueillette, la collection. Alors, vous avez été bibliothécaire aussi, me semble-t-il. Alors, je fais un rapprochement, mais quand on parlait de l'énumération, c'était une question que je me posais aussi. L'énumération, la collecte, est-ce que ça ne résonne pas aussi avec un métier que vous avez pu faire ?
Oui, mais après le journalisme, j'ai travaillé en bibliothèque où je m'occupais d'un fonds très spécifique, un fonds de théâtre, et j'invitais des auteurs de théâtre. Mais oui, mais ça m'allait très bien ce métier de bibliothécaire, parce que j'adore fouiner, chercher, trouver et ensuite classer. Il y a Georges Perec, qui est un écrivain pour lequel j'ai une immense admiration, qui a écrit un livre. Enfin, il n'a pas écrit un livre, c'est un livre qui a été publié après sa mort et qui recueille différents textes qu'il a écrit. Et ce livre s'appelle « Pensées classées ». Et c'est un livre que je trouve absolument génial, dans lequel je me reconnais à chaque phrase. C'est-à-dire, oui, je suis sans cesse dans le travail et la volonté de classer, empiler, ranger, accumuler, classer.
Et dans l'écriture, alors pour revenir à l'écriture, on parlait tout à l'heure de le fait de s'exprimer et de ce moment aussi où l'écriture permet de sauver. Donc il y a la vie, le cours de la vie où vous collectez en fait des morceaux de vie, des paroles de vie. Dans vos poèmes, au final, ce qui prédomine, c'est ce mouvement vers l'amour. On retrouve ça notamment dans vos deux premiers livres dont je parlais, dans La Compagnie des Anges et Ce qu'il faut de la patience. Et de vos textes, en tout cas, c'est ce que je retiens. Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de, me semble-t-il, dans La Compagnie des Anges, si je ne me trompe pas, un texte qui s'intitule « Envie » et qui, finalement, est un des derniers textes du livre qui commence avec l'exposition d'une fragilité et de difficulté de la vie et de réussir à travers l'écriture à arriver à ce texte. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Alors en fait, moi non plus, je ne savais plus dans quel livre c'était, mais là je l'ai sous les yeux, c'est dans Ce qu'il faut de patience. Mon deuxième livre publié aux éditions du Des Bleus. Donc ça s'appelle Envie et c'est dédié à Virginie qui est une rennaise. La merveilleuse bousculade de la vie, les accidents au lieu de rien, des forces allant, venant, autant de ratures, autant de victoires, mille inquiétudes en migration d'oiseaux, les hontes qui se défont, le mot d'amour quelquefois rattrapé et toutes ces années trop vite, le mystère étouffé de nos enfants, les couleurs anciennes ravivées, quelle douceur la peau, la tendresse immensément donnée et le cœur insoluble. Grand chahut de grand vent, le regret au jour clair de n'être pas pianiste au bord de l'eau, les objets et les sentiments cognés, la confusion des larmes et tout attraque le souvenir d'un livre de Stefan Zweig, invariable dernier de la bibliothèque, le goût du cœur battant, tourner manège et les chansons de nos adolescences, les hautes amitiés, nos bras insuffisants, les mots qu'on aime qu'on veut fuir, le risque salutaire, les certitudes sans partage, les désirs de vacances et l'à côté de la réalité, une fugue longue à bicyclette, la rouille dévorant le guidon, combien nous sommes remplis parfois, miraculés, mais toujours, toujours au bord du vide, et merveilleusement.
Bernard Bretonnière, merci.
Merci Mathieu.